Voilà, donc ce passage, pour en arriver à la forme et pour en arriver à un point, vous voyez comme il utilise tout le savoir du monde, comment il utilise toutes les sources. Là, on voit les livres qui sont à ses pieds, mais on voit aussi la radio, la rue de New York, la télé, les amis souvent, parce qu'il est souvent dans son salon, il y a la fête toujours derrière, il y a toujours la fête derrière, donc il utilise aussi tous ces bruits-là, tout ce qui se dit derrière, et tout ça rentre sur sa toile. Et c'est ça la grande force et la grande nouveauté de Basquiat. Et ça m'amène au concept de rhizome de Gilles Deleuze, parce que c'est ça qu'à mon avis fait Basquiat. Le rhizome de Deleuze, c'est l'idée, donc le rhizome c'est la racine de la plante vivace, de certaines plantes vivaces, et Deleuze utilise ce terme, ce concept, comme l'idée d'une pensée qui serait efflorescente, qui serait sauvage, comme le rhizome, qui ne connaîtrait ni haut ni bas, ni droite ni gauche, ni début ni fin, qui ne serait pas comme toutes ces, comme il écrit Deleuze, comme toutes ces choses binaires qui nous empoisonnent l'âme, hein, toute l'histoire humaine est toujours verticale, haut, bas, début, fin, et il applique ce concept à, lui, la pensée philosophique, à son travail, d'accord ? Donc, soit que ça se développe comme ça, de manière florissante. Et je pense que c'est ce que Basquiat essaie de faire aussi, et c'est ce que je me demandais en lisant Deleuze et en regardant les toiles de Basquiat, qu'est-ce que ça pourrait faire à la littérature d'emprunter ce concept-là. Et du coup, on aurait idéalement, comme les toiles de Basquiat, des romans, des textes qui passeraient par tous les genres, qui passeraient par toutes les époques, tous les personnages, tous les lieux, qui seraient comme ça, mouvants, et qui seraient totaux, qui seraient, voilà, en mouvement constant, et qui essaieraient d'englober toute une suite de choses. Et ce que j'ai voulu, mais très humblement faire, c'était juste regarder les toiles de Basquiat, et de voir comment ça allait me contaminer, comme un virus un peu, et voir comment, donc là dans ce passage c'est très clair, c'est-à-dire c'est bon, vraiment... essayer d'être dans son battement, dans son souffle, mais dans la construction aussi générale, de voir comment l'observation d'une pratique extérieure, c'est-à-dire de la peinture jusqu'à la littérature, qu'est-ce que ça bousculerait, qu'est-ce que ça changerait, qu'est-ce que ça, voilà, donc dans la phrase, dans la composition, dans tout. Et parce qu'il y a une chose importante, c'est que Basquiat est dans plusieurs endroits à la fois. Je m'explique. Il est, bon, je le souligne un peu dans ce passage, mais il est à la fois dans l'écriture, dans la poésie, dans la musique, dans plein d'art à la fois, et dans plein d'éléments à la fois. Il l'est réellement, puisque c'est vraiment un musicien, enfin vraiment. Il fonde avant d'être peintre, il fonde un groupe de musique expérimentale, où personne ne sait jouer de l'instrument qu'il va jouer, mais le prend comme un instrument, un outil, et essaie de le déconstruire. Donc ça donne un groupe qui s'appelle Grey, qui est une folie totale, et qui est aussi ce que va faire Basquiat par la suite, avec la peinture aussi. Il est obsédé par la littérature, par la poésie, on le voit là, par les mots, ça rentre constamment, par toutes les langues, par toutes les époques, on l'a vu, et aussi par la musique, je l'ai dit, mais la musique plus techniquement, c'est-à-dire que il est, je l'ai dit là dans le texte, en train de scratcher, il reprend des morceaux et il les réutilise, donc c'est du scratch, il fait du rap de certaine manière, c'est un DJ, et aussi le jazz est très important pour lui, il l'écoute constamment et il pratique d'une certaine manière sur ces toiles, plein de choses qui seraient de l'ordre du chorus, du contrepoint, enfin, il y a toute une manière de construire son travail qui est proche de la peinture. En fait, il est aussi dans la correspondance entre les arts. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que ça, c'est, rien n'est à sa place, tout se transvase toujours. Et je crois, en regardant de près, que les, en essayant de regarder, que tous les grands créateurs, quels qu'ils soient, ils ne font jamais que ce qu'ils sont en train de faire. Si vous regardez Proust, vous voyez bien qu'il ne fait pas que écrire, il fait d'autres choses en même temps. Il y a de la musique, il y a de la peinture, il y a plein de choses qui sont là. Ensuite, il y a bien sûr le cinéma qui va arriver, tous les grands font d'autres choses en même temps. Ils sont presque tous des synesthètes. Ils voient les sens communiquent. D'ailleurs, Nabokov était synesthète, c'est-à-dire qu'il voyait les sons et il voyait les sons, par exemple, et les couleurs, etc. Tom York de Radiohead est synesthète aussi. Donc les notes, il les visualise. Donc ça, c'est intéressant à pratiquer. Et je crois que Basquiat, c'est de cet ordre-là aussi. C'est même presque une sorte de chaman. Il y a un truc qui est pas normal, en fait, d'entendre tout ça à la fois, d'être à 23 ans en plus, d'être aussi réceptif et sensible et de pouvoir entendre tout ce qu'il entend. Et ça, ça me fait penser à un texte que j'adore, qui est là aussi pas très loin, donc du grand Borges, et qui est l'Aleph. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une nouvelle sublime où c'est un personnage qui arrive jusqu'à l'Aleph, qui est l'endroit où se rejoignent et sont tous les l'instant de tous les instants, tous les lieux, toutes les époques, tout en même temps à un même endroit. Et je me permets juste de vous lire la toute fin parce que je trouve ça beau et c'est exactement, je crois, ce qui se passe là avec Basquiat. Je vis la mer populeuse, l'aube et le soir, les foules de l'Amérique. Une toile d'araignée argentée au centre d'une noire pyramide, un labyrinthe brisé, c'était Londres. Je vis des yeux tout proches, interminables, qui s'observaient en moi comme dans un miroir. Je vis tous les miroirs de la planète et aucun ne me refléta. Je vis des grappes, de la neige, du tabac, des filons de métal, de la vapeur d'eau. Je vis de convexes déserts équatoriaux et chacun de leurs grains de sable. Je vis à Inverness une femme que je n'oublierai pas. Je vis la violente chevelure, le corps altier. Je vis un cancer à la poitrine. Je vis un cercle de terre desséché sur un trottoir, là où auparavant il y avait eu un arbre. Je vis des chevaux au crin dense sur une plage de la mer Caspienne à l'aube, la délicate ossature d'une main, les survivants d'une bataille en voyant des cartes postales. Je vis dans une devanture un jeu de cartes espagnol. Je vis les ombres obliques de quelques fougères sur le sol d'une serre, des tigres, des pistons, des bisons, des foules et des armées. Je vis toutes les fourmis qu'il y a sur la terre, un astrolabe perçant, la circulation de mon sang obscur, l'engrenage de l'amour et la transformation de la mort. Je vis l'Aleph. Sous tous les angles, je vis sur l'Aleph la terre, et sur la terre de nouveau l'Aleph, et sur l'Aleph la terre. Je vis mon visage et mes viscères, je vis ton visage, j'eus le vertige et je pleurais, car mes yeux avaient vu cet objet secret et conjectural, dont les hommes usurpent le nom, mais qu'aucun homme n'a jamais regardé, l'inconcevable univers. Donc voilà, ça va pas du tout, quoi. En gros, ça détraque complètement, c'est pas normal. C'est pas normal, ce personnage, il peut pas tenir, il peut pas avoir tout ça à la fois, c'est pas tenable. Comme c'est pas tenable que... Enfin, c'est pas normal que Kafka, par exemple, prends le premier qui vient, parle d'une faute immémoriale, d'une faute que lui-même n'a même pas dans son corps, vous voyez, tout le monde parle d'autre chose que là où il est. Bacon, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand moi je vois l'étoile de Bacon, j'ai l'impression de voir des personnages qui crient, mais c'est même pas ces personnages-là, c'est un cri qui est ailleurs, qui vient de l'histoire, qui vient de je sais pas où. Voilà. Et donc il n'est pas normal que Basquiat puisse capter tout ça, mais c'est ce qu'il fait. Donc ça pourrait nous servir de modèle. Il y a une autre chose qui m'intéressait dans ce livre, c'était, le titre l'indique, l'héroïka, l'héroïsme. Je vais vous mettre la toile d'Héroïka si je la trouve. Vous pouvez vous mettre juste la dernière. Bon, c'est celle qui précède juste Héroïka, c'est Riding with Death. C'est sa dernière toile. Et Héroïka, pourquoi Héroïka? Parce que c'est un mot qui revient beaucoup dans ses derniers tableaux. Donc certains s'appellent Héroïka, il y a Héroïka 1, Héroïka 2. C'est l'idée que Héroïka, pourquoi Héroïka? Parce que c'est la symphonie héroïque, la troisième de Beethoven, qu'il écoute en boucle et qui, pour lui, voilà, représente toute sa vie, il a voulu être un héros, presque comme un gosse qui regarde Superman et Batman et Kerouac et Charlie Parker et qui veut lui aussi être un héros. Et dès le départ, il sait qu'il a des super pouvoirs, comme je viens de le dire un peu, qu'il y aura toute une foule d'obstacles. Alors, il va les avoir, tous. Il va y avoir le racisme, il va y avoir le monde de l'art, il va y avoir la jungle qu'est New York en 77, 78, quand il y arrive. Il va y avoir son père, qui est un personnage autoritaire, donc il va essayer de s'échapper. Sa mère, qui devient schizophrène, qui va dans un hospice. Et donc il fugue de chez ses parents et il arrive à Manhattan. Il vit au début dans la rue, il vit sur les canapés de ses amis, de filles qu'il rencontre. Il se prostitue même pendant un moment. Et voilà, donc tout, je peux encore en énumérer d'autres, tous ces obstacles, lui qui se vit comme un héros, il va les surmonter, les dépasser pour arriver à être ce qu'il veut, là encore comme un enfant, être le roi de New York, donc du monde. Il faut aller vite pour lui. Et il va y arriver. Quand il faudra se rapprocher de Warhol, qui lui est celui qui a à ce moment-là la couronne du roi de New York, il le fera. Et on peut presque dire qu'il prendra sa couronne. Mais bien sûr, comme tous les héros, ça finit mal. Et ça aussi, parce qu'il y a, c'est à la fois qu'il le sait, qu'il le pressent, et en même temps qu'il participe à sa propre chute, comme s'il était pris dans une toile de fiction et d'héroïsme. C'est-à-dire que presque ça lui plaît pendant un moment d'entraîner sa propre chute, et au moment où c'est trop tard, ben c'est trop tard. Voilà, donc ça traverse tout son parcours, et ça m'intéressait aussi de le... C'est le fil un peu du livre. Donc, pour revenir au rhizome et pour en arriver à mon livre suivant, je me suis demandé ce que cette idée de rhizome pouvait donner plus largement au roman, et pour prendre une idée, même l'incarnation presque de ce que c'est que le rhizome, ce serait le réseau, ce serait Internet. Parce que si vous lisez le livre de Deleuze, enfin le texte de Deleuze qui date de 1972, si vous le lisez au pied de la lettre, vous pouvez tout à fait croire qu'il est en train de parler d'Internet. La structure qu'il décrit, c'est presque la structure d'Internet, avec des points qui communiquent sans passer par un point central, avec cette espèce d'architecture qui, au début, et encore maintenant en réalité, et cette structure éclatée d'Internet, je me suis demandé ce que, non seulement ça allait être le sujet un peu du livre, c'est en grande partie le sujet, c'est Internet, mais aussi, bien sûr, la forme, et qu'est-ce que ça veut dire d'écrire un roman en 2015, 16, 17, dans ce monde-là, dans cette structure du réel qui est celle-là, elle est en grande partie quand même formée par cette entité là qu'on appelle Internet. Donc du coup, j'ai essayé, mais c'est vraiment une tentative ratée, mais je raterai mieux la prochaine fois, j'espère, de faire circuler différentes strates, différents genres, différents personnages, différentes époques, différentes choses. À l'intérieur de ce roman, pour essayer, non pas de reproduire, c'est pas l'idée de dupliquer, de reproduire le réel, ça on s'en fout, mais c'est de voir en quoi la structure du monde dans lequel on vit et dans lequel on crée, donc dans lequel forcément il y a une interaction avec ce qu'on fait, en quoi ça influence, modifie, altère ce qu'on produit. En l'occurrence, un livre. Donc voilà, donc c'est donc à partir de cette idée de départ de Alvaro, dont je vous ai parlé, du Mexicain, de cette rencontre avec ce transhumaniste, une sorte d'exploration du monde contemporain à travers les corps, à travers les réseaux.